Les derniers sacrements qu'on n'avait pas vu, ça devait être le mariage. Si ma mémoire est bonne. Je vais assurer l'expédition en vitesse, parce qu'il y a des choses plus intéressantes à voir que ça. Et finalement, il y a peu de choses à dire sur ce sacrement-là. C'est un sacrement, d'après la théologie catholique, qui donne aux époux la grâce nécessaire pour accomplir les devoirs de leur état. Voilà, notamment la définition qu'en donne l'Église catholique. Alors, je pense qu'on peut se borner tout simplement à cette définition-là. Ça permet de s'abonner d'après la théologie catholique, de surmonter les difficultés inhérentes à tout mariage, aux problèmes de caractère, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, voilà. En gros, on peut dire tout de même une autre chose, si vous voulez, c'est que d'après la tradition catholique stricte, et ça, il faudra le souligner parce que c'est important. Le mariage, il n'y a de mariage que lorsqu'il est accompli par l'Église catholique. Le prêtre qui marie les époux, c'est vraiment le terme, il les marie. C'est-à-dire que, aussi longtemps qu'il n'y a pas eu l'intervention d'un prêtre et intervention du Saint-Esprit dans le sacrement du mariage, on ne peut pas considérer que les gens soient mariés. Par exemple, au moment de la Réforme, enfin, pendant tout le Moyen-Âge, si vous voulez, ça ne posait pas de problème. Parce que le mariage civil n'existait pas. C'était l'Église qui tenait en main tout ce qui concernait l'état civil. Si bien que, lorsque des gens ne passaient pas devant le prêtre, ils vivaient au concubinage, où on a dit le bon. À partir de la Réforme, évidemment, il y a un problème qui s'est posé. Parce que, d'une part, les réformateurs ont contesté la valeur sacramentelle du mariage. Et, par exemple, Calvin, dans l'institution chrétienne, est très clair, n'est-ce pas, le pasteur, le ministre de l'Évangile, quel qu'il soit, finalement, n'a pas le pouvoir de marier les gens. Ce sont les époux qui se marient. Et ce que fait l'Église en la personne de ses représentants, c'est demander la bénédiction de Dieu sur le mariage, qui peut d'ailleurs être tout aussi valide aux yeux de Dieu s'il n'y a pas eu cette bénédiction-là. Alors, à partir de la Réforme, un problème est apparu parce qu'évidemment, les protestants ne passaient pas devant le curé, donc n'étaient pas sacramentellement mariés pour l'Église catholique, et par conséquent pour l'Église catholique, comme pour la société civile, c'était des concubins. C'est ainsi que les protestants, qui étaient par ailleurs mariés tout à fait saintement, qui vivaient une vie conjugal, fidèle, etc., étaient considérés par les autorités de l'époque, jusqu'à l'évidence, après la révocation de l'évidence pareil, comme des gens qui vivaient en concubinage. Maintenant, en droit canon strict, les gens, catholiques ou non, par exemple, qui ont été mariés civilement, ne sont pas mariés, sont considérés comme vivant en concubinage, et par conséquent, comme étant tout à fait à même de séparer, justement, d'épouser qui vont leur chance, cette fois-ci d'une manière tout à fait sacramentelle et tout à fait bénie par l'Église. Alors, je crois que le sacrement du mariage est tout de même plus important que ce qu'on peut imaginer au début. Maintenant, ce sacrement-là est indissoluble d'après la théologie catholique, la théologie biblique d'ailleurs, mais il peut y avoir des cas de rupture du mariage. Ce n'est pas des divorces, autrement dit, ce sont des nullités. Voilà.
La différence, c'est que ce n'est pas le mariage, c'est un divorce. En cas de divorce, théoriquement, le divorce, ça rompt quelque chose qui a existé.
C'est ça.
Par contre, dans la nullité, la nullité du mariage, et en fait, c'est le débit. vise du consentement, vise de corps, vise de corps, qui ont fait qu'en fin de compte, les gens qui sont cru mariés, ben, ne l'étaient pas. Ils découvrent brutalement qu'ils ne l'étaient pas. Donc, en fin de compte, on ne fait que déclarer, ben, qui a toujours été, pour que le jour où vous n'avez pas été marié, vous n'êtes pas encore marié à l'élu. Donc, vous pouvez vous marier normalement ou quand vous mariez.
Exactement.
Mais donc, c'est
rétroactif. Donc, à ce niveau-là, bon, maintenant, il y a évidemment, dans le cadre de l'œcuménisme, il y a un autre problème qui s'est posé, c'est celui des mariages mixtes. Avant Vatican II, la législation catholique était extrêmement sévère. Le conjoint protestant qui épousait un catholique devait signer une déclaration draconienne qui le ligotait systématiquement. Disons que d'abord il laissait la pleine liberté religieuse à son conjoint, sans s'engageant à ne faire aucune pression pour l'attirer dans sa religion, qu'il s'engageait à ce que les enfants soient systématiquement éduqués dans la religion catholique, etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus souple, dans la mesure où, en général, de tels mariages sont célébrés par un prêtre et par un pasteur dans une liturgie faite d'un dosage savant de compromis, etc. Bon, je vois mal, d'ailleurs, je n'ai jamais été bien compris comment les collègues réformés arrivent à concilier justement la vision biblique et calviniste, par exemple, du mariage bénédiction avec l'idée catholique du mariage sacrement. Enfin, c'est leur affaire, je n'ai jamais compris ça bien comment ils font, enfin, c'est comme ça. Et c'est beaucoup plus subtil aujourd'hui, mais dernièrement, au dernier concile, dernier synode de l'Ouest, oui, réformé, le représentant officiel de l'œcuménisme se plaignait amèrement que la plupart des mariages mixtes qui étaient faits, enfin, tournaient toujours à l'avantage de l'Église catholique, en fin de compte, au niveau de l'éducation des enfants, voire au niveau tout simplement de la pratique religieuse, quand il y en avait encore une, des conjointes. En général, quand il y a le mariage mixte, il n'y a aucune pratique religieuse, quelle que soit, ni toutes les catholiques, ni protestantes, ces gens-là finissent pas, en général, dans la nature. Donc voilà, en gros, si vous voulez, ce qu'on peut dire sur les sacrements. Je ne voudrais pas m'étendre plus longtemps sur cette question, parce que nous avons un gros morceau à aborder ce soir, c'est justement la piété mariale dans la vision catholique. Alors peut-être, avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez des questions à poser sur les sacrements? Ou sur le sacrement du mariage, plus particulièrement, ou sur les sacrements en général? Bon, c'est-à-dire que dans la tradition catholique, tu as un certain nombre de cas où il n'y a pas eu de mariage, en fait. Alors qu'ils ont été mariés sacramentellement.
Ça existe en droit civil,
pareil. Oui, ça existe en droit civil aussi. Par exemple, admettons que quelqu'un ait été marié, soit marié en fait, et puis n'est pas déclaré. Tu vois? Bon, bah, puis je te retrouve dans un état de bigamie. Automatiquement, si tu veux, son mariage n'est pas valable. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore comme autre cas? Ou quelqu'un qui peut avoir, par exemple, quelqu'un qui croit que son conjoint est décédé, et puis qui se remarie, puis au bout de 10 ans, le conjoint réapparaît, etc. Ça, c'est des cas, ça existe, hein, des cas comme ça, en droit, en droit civil. Ouais. Donc, si tu veux, voilà des cas où il y a nullité du mariage. Mais il y a aussi un autre truc. À ce niveau-là, dans la théologie catholique, c'est ce qu'ils appellent le privilège prolat. C'est basé sur 1 Corinthiens 6, quand Paul dit ceci que... comment c'est déjà ?
1
Corinthiens 7, oui. C'est exactement... Oui, c'est le cas de deux conjoints, un qui est croyant et l'autre qui ne l'est pas. Alors, oui, c'est ça. Donc, si l'incroyant prend l'initiative de se séparer, Paul dit que le croyant n'est pas tenu à ce moment-là. Donc le catholicisme interprète ça en disant ceci. Si quelqu'un a un conjoint incroyant et qu'il y a son conjoint incroyant prend l'initiative du divorce, eh bien, le croyant est libre de se remarier. Ce qui est faire violence au texte. Mais en théologie catholique, c'est comme ça. Par exemple, ça, les orthodoxes le récusent. C'est une différence entre catholiques et orthodoxes, c'est que les catholiques admettent le privilège paulin, comme ils l'appellent, tandis que les orthodoxes le récusent. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va aborder cette grande, grande question de la Vierge Marie. C'est une très, très grande question parce que c'est plus qu'un point de cristallisation de, si vous voulez, de différence entre protestants et catholiques. Dans la mentalité populaire, le protestant, c'est celui qui ne croit pas à la Vierge. Voilà en gros comment on le définit. C'est un peu simpliste, mais c'est pas tout à fait faux. Parce que la Vierge Marie occupe dans la vision catholique une place extrêmement importante. La piété mariale occupe une place extrêmement importante. Et si l'Église catholique renonçait à la piété mariale, elle cesserait d'être catholique. Je crois que il faut le comprendre. À partir du moment où quelqu'un cesse pratiquement de croire à la Vierge, il ne cesse pas d'être catholique pour autant, parce qu'on a vu que la définition que l'Église catholique donne du catholique, mais en tout cas, il est sérieusement en porte-à-faux par rapport à la foi de son Église. Et c'est pourquoi, précisément, aujourd'hui, l'Église catholique veille particulièrement à ce que les fidèles de son Église soient tout à fait au clair en ce qui concerne la piété mariale. Maintenant, la piété mariale, c'est aussi, dans l'Église catholique, une piété essentiellement populaire, au départ, et qui, de ce fait, prend des aspects, a souvent pris dans l'histoire, et continue à prendre aujourd'hui, des aspects souvent délirants, il faut le dire, dithyrambiques et sentimentaux, qui la rendent particulièrement, je dirais, désagréable, aux non-catholiques. C'est nous ça. Mais au-delà de cela, la piété mariale, c'est la clé de voûte du système catholique. On va essayer de vous démontrer. Par conséquent, c'est la pierre angulaire. Si on touche à ça, c'est tout l'édifice. C'est tout l'édifice de la papauté, c'est tout l'édifice de la vision de l'Église, c'est tout l'édifice de la vision de l'inspiration et de l'autorité dans l'Église qui se trouve remis en question. Alors, c'est vraiment la clé de voûte du système. Et c'est pourquoi nous allons y consacrer beaucoup de temps, parce que c'est une des questions essentielles au tout. La première chose à dire en ce qui concerne la piété mariale, c'est que c'est une piété finalement très ancienne. On trouve, quand on verra ce problème en histoire de l'Église, on trouve les premières allusions au culte marial dès le IIe siècle. Par exemple, dans certaines églises synagogues d'Israël de l'époque du IIe siècle, à Nazareth par exemple, on trouve déjà des salutations mariales. Je salue Marie, une grâce à des fêtes. Tout ça dans une église synagogue du IIe siècle. Dans les catacombes romaines, donc de l'époque des grandes persécutions, on trouve aussi des épitaphes qui sont des références mariales, si bien que, historiquement parlant, le catholicisme peut se targuer de ce caractère très très ancien de la piété mariale. Ce qui peut être objecté, ce qui doit être objecté quand cet argument-là est avancé, c'est qu'on ne trouve cette piété du Messie qu'à partir du IIe siècle, c'est-à-dire après l'âge apostolique, et qu'à l'époque apostolique, il n'y a aucune trace d'une semblable piété mariale. C'est à partir du moment, en fait, où il y a de plus en plus une influence du paganisme dans l'Église, c'est-à-dire à partir du moment, surtout après la deuxième révolte juive, c'est-à-dire après 135 après Jésus-Christ, donc le moment où la majorité de l'Église va être composée de chrétiens d'origine païenne, que la piété mariale va commencer à apparaître. C'est un phénomène qui est conjoint justement avec le déclin, si vous voulez, de l'influence juive dans l'Église primitive. Pour, si vous voulez, faire un peu d'histoire à ce sujet-là, je crois que j'ai dû noter quelque part un certain nombre de dates en ce qui concerne la piété mariale. Oui, mais avant Éphèse, déjà, il y avait un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, la piété mariale, ça a d'abord été, et ça a surtout été toujours, une piété essentiellement populaire. Il y avait, chez les païens, une dévotion à des divinités féminines qui étaient très célèbres dans le monde antique. Le Nouveau Testament, par exemple, nous parle des mêlées que Paul avait eues à Éphèse avec la déesse patronne de la ville, la grande Diane des Éphésiens, qui était identifiée parfois avec une déesse qui était aussi très célèbre dans l'Antiquité à cette époque-là, c'était Isis, la déesse Isis. Ces déesses, par exemple, il y avait aussi Cybèle et d'autres déesses du même genre, et ces déesses étaient souvent aussi les héritières de déesses qui, à une époque encore plus ancienne, à l'époque babylonienne, étaient très en faveur aussi. Notamment, c'était cette idée, par exemple, on trouve ça chez justement Isis et Cybèle et autres, la déesse mère, qui était souvent associée avec la terre nourricière, la terre, le globe terrestre, si vous voulez, dont l'homme était sorti, qui était considéré comme la mère, dans laquelle l'homme naissait et puis finalement dans laquelle il rentrait, comme si après, à un moment de la mort, il rentrait dans le sein de sa mère. Vous savez que dans les sépultures antiques, très souvent le cadavre était replacé dans la position fœtale. C'était justement tout le rappel de cette foi dans la déesse mère qui était la terre. Cette déesse mère était souvent aussi associée avec la maternité, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque la déesse mère, et souvent, par exemple, elle était représentée portant un enfant dans ses bras. Et on voit tout de suite le rapprochement qu'on peut faire justement avec la Vierge Marie. Et ce n'est pas caricaturer la foi, la piété mariale catholique, que de dire qu'au départ, il y a eu par l'Église catholique, et encore une fois assez tôt, l'Église catholique païenne, au moment où l'élément païen est devenu prépondérant dans l'Église catholique, une récupération de la foi païenne dans la déesse mère. Vous savez que le catholicisme, à ses origines, a souvent justement récupéré, avec des intentions tout à fait louables, un certain nombre de coutumes et de pratiques païennes en les christianisant. Il suffit de voir dans notre les menhirs christianisés sur lesquels ont été sculptés des croix de façon à leur donner un petit air un peu plus chrétien, mais en fait, si vous voulez, ça permettait de convertir à bon compte des populations païennes qui n'étaient pas trop dépaysées puisque finalement elles continuaient à adorer les mêmes divinités que celles qu'elles avaient adorées jusqu'alors en leur donnant des nouveaux noms. Vous savez par exemple que le culte de la grande patronne de la Bretagne, qui est Sainte Anne, est un culte païen tout à fait pré-chrétien, de la grande déesse des Celtes, qui s'appelait Anna. Le catholicisme a récupéré ce culte-là en transformant la déesse Anna en la mère de la Vierge Marie, Sainte Anne, d'après, par exemple, un certain nombre de livres apocryphes auxquels nous faisons allusion tout à l'heure. Si bien que les Celtes primitifs, qui ont été christianisés très superficiellement, comme hélas beaucoup de populations en Europe, au partir du 4e, 5e siècle, au moment de la christianisation, au moment de cette partie d'Europe, eh bien, n'ont pas été tellement dépaysés quand le christianisme est venu dans leur région, puisque dans le fond, ils ont continué à adorer les mêmes divinités, en leur donnant un petit aspect un peu différent. Donc, on retrouve à peu près la même chose pour ce qui est de la Vierge Marie, le culte de la déesse mère, de la déesse terre. Et la piété mariale dans la foi catholique est associé justement avec la notion de la maternité. Marie, c'est la mère. Et comme telle, c'est un thème qui revient constamment ça, dans l'Église catholique. Et comme telle, elle est assimilée à l'Église. L'Église est aussi la mère. Notre mère, l'Église. Et par conséquent, Marie, mère du Christ, est aussi la mère de tout chrétien. Voilà, c'était catholique, j'entends. Et cette maternité de Marie est une maternité qui n'est pas seulement historique, mais c'est une maternité qui est fonctionnelle, c'est-à-dire qui est actuelle, qui continue, Marie continue aujourd'hui à enfanter spirituellement des fils et des filles qui sont les membres de l'Église. Maintenant, la maternité de Marie est associée aussi à une autre idée force, répétée mariale catholique, c'est la virginité. La virginité qui est tenue en grand honneur dans l'Église catholique, puisqu'elle est exigée, vous le savez, de tous les ministres du culte catholique, et apparaît comme un idéal de vie plus élevé que l'état de mariage, ce qui fait que la Vierge, comme on l'appelle dans l'Église catholique, devient le prototype, enfin l'idéal, justement, de la vie sainte et de la vie que doit mener tout ministre de l'Église catholique, et qui plus est, même finalement, de tout membre de cette Église, de tout chrétien. Maintenant, ce thème aussi de la Vierge Mère, qui est une espèce de paradoxe en soi, bien qu'il soit biblique, de la Vierge, on va rentrer tout à l'heure, plus tard, durant ses études, c'est aussi une vieille idée païenne. Par exemple, Diane, dont nous parlions tout à l'heure, était considérée aussi comme une vierge. Un certain nombre de déesses étaient perpétuellement vierges, tout en ayant aussi parfois, étant à la fois mère. C'est aussi une vieille idée païenne qui se trouve un petit peu récupérée, là aussi, par l'Église catholique, dans qui appartient finalement à un front assez l'inconscient collectif un petit peu de tous les peuples. Dans beaucoup de mythologies, on trouve un petit peu des choses semblables. Associé encore une fois avec la terre divinisée, la terre en tant que déesse. Pas. Alors, voilà en gros, si vous voulez, quels sont les fondements psychologiques et les racines pré-chrétiennes du culte marial. Je crois qu'il faut remonter jusque-là. Alors, ça nous explique comment et pourquoi, justement, on a très tôt, au moment où les païens entrent en force dans l'Église, des allusions au culte marial. Maintenant, ce culte qui a joui à cause, justement, des antécédents pré-chrétiens qui étaient les siens, d'une très très grande faveur dans les milieux populaires de l'Église, très vite et très tôt, donc qui a été animé d'un grand dynamisme, si j'ose dire, comme d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui, ne s'est pas imposé sans problème parmi les théologiens de l'Église. C'est ainsi, par exemple, que jusqu'au VIe siècle, les théologiens officiels, s'ils ne récusent pas vraiment le culte de Marie, le mettent en question fortement. D'abord parce que, théologiquement, le culte de la Vierge se trouve essentiellement évoqué dans les évangiles apocryphes. Alors là, dans les évangiles apocryphes, il y a des perles au sujet de la Vierge. Alors là j'ai quelques textes dans les apocryphes. Alors, vous avez par exemple un ouvrage qui s'appelle Transitus Beati Mariae. C'est à la base, justement, du dogme de l'Assomption, encore aujourd'hui dans l'Église catholique. Le transitus, c'est le passage donc de ce monde-ci au monde céleste, de la bienheureuse Vierge Marie. Et alors là, vous avez des choses tout à fait étonnantes qui sont évoquées là-dedans. Par exemple, vous avez d'abord l'enfance de la Vierge. Alors, des récits gentils, mignons, enfin, ça parle vraiment comme de fées. Cet enfant extraordinairement formidable, etc. La manière dont elle a été présentée au temple, enfin, ce qui est un décalque, si vous voulez, de l'histoire de Jésus, quoi, en gros. Hein, Jésus présenté au temple avec Siméon et Anne, où là aussi il y a un certain nombre de prophètes qui l'accueillent, et puis qui annonce la destinée exceptionnelle que la sienne. Bon, alors c'est là qu'on apprend que ses parents s'appelaient Anne et Zacharie. Comment ? Et Joachim, pardon, oui. Elle a donc été consacrée au temple et elle a été, comme Samuel, un petit peu, là c'est l'histoire de Samuel qui vient, qui à partir de l'âge de 15 ans, elle a été élevée dans le temple, elle est restée dans le temple, jusqu'à ce qu'elle ait été prise sous la protection de Joseph, après avoir fait un vœu de virginité. Enfin bref, tout vous a trouvé là-dedans, tout est bas, si vous voulez, de la piété mariale ultérieure. Mais même l'Église catholique, avec la meilleure volonté du monde, n'a pas reconnu comme inspirés ces écrits-là. Elle les a considérés comme apocryphes. Alors, voilà, en gros, si vous voulez, je peux vous raconter un petit peu, je peux vous dire ce qui nous en est dit. Hein. Ce texte a été rédigé dans la seconde moitié du IIe siècle, en Égypte, et en Syrie, selon une autre hypothèse, proche du milieu judéo-chrétien. L'auteur veut défendre la mémoire de Marie contre les Juifs qui l'accusent d'avoir donné le jour à Jésus après son adultère avec un soldat romain dénommé Pantera. Oui, ça, c'est le caricature juive, ça, je m'appelle le Toldot Yeshu. Pour écrire l'histoire de la naissance et de l'éducation de Marie, Jacques qui écrit cette pseudo-évangile, s'inspire pas à pas du premier livre de Samuel. Anne se lamente de sa stérilité qui lui vaut les outrages de sa servante. Insulté de son côté, Joachim fait retraite au désert. Il faudra un message de l'ange pour qu'il retourne auprès de son épouse. La rencontre a lieu devant la porte dorée du temple, motif souvent illustré par les imagiers du Moyen-Âge. La naissance de Marie est célébrée par des louanges qui font entrevoir sa sainteté éminente. Où est levé dignement l'enfant du miracle ? À 3 ans, la petite Marie est conduite, la petite Marie est conduite au temple et elle monte sans hésitation les degrés du sanctuaire. Le grand prêtre l'accueille en ces termes, le Seigneur Dieu a exalté ton nom dans toutes les générations et toi au dernier jour, le Seigneur Dieu fera apparaître la rédemption au fils d'Israël. Parvenue à l'âge de la puberté, Marie est confiée à un veuf respectable dont les enfants, les frères de Jésus entre parenthèses, sont déjà élevés. Marie est ainsi dans la situation d'une jeune vierge chrétienne accueillie par un ascète qui a la responsabilité de s'avertir. La première annonce de l'ange retentit à la fontaine de Nazareth, bien connue des pèlerins. Revenue à la maison, Marie se met à filer le pourpre destiné au voile du temple, motif que l'on retrouve constamment dans les icônes byzantines. C'est alors que l'ange lui révèle qu'elle concevra du verbe de Dieu, le symbole de la pourpre royale et transparente. Travaillant pour le sanctuaire, Marie reçoit mission de donner le jour à celui qui sera à la fois le roi et le temple. Après une reprise assez pâle du thème lucanien de la visitation, Jacques en arrive au drame, la découverte de la grossesse de Marie. Dans une prière angoissée, Joseph se demande si la Vierge qui lui est confiée n'aurait pas été séduite comme Ève par le serpent. Le grand prêtre mène son enquête et soumet Joseph et Marie à l'ordalie des eaux amères. Un non-lieu s'ensuit. Si le Seigneur Dieu n'a pas fait apparaître votre faute, moi non plus je ne vous condamne pas, dit le grand prêtre. Bon. Alors ensuite, il y a le récit de la naissance de Jésus. Alors voilà le commentaire de l'auteur ici. Malgré ses gaucheries d'expression, l'auteur manifeste une foi orthodoxe en la personne de Jésus, Verbe de Dieu, roi d'Israël, sauveur, vrai fils de Marie. Ce qu'il veut illustrer par ces récits librement inventés, c'est la sainteté de Marie, sa virginité perpétuelle. Le veuvage de Joseph permet d'expliquer la mention des frères de Jésus dans les évangiles sans porter atteinte à la virginité perpétuelle de Marie. Un adaptateur latin, le pseudo Matthieu, trouvera pour le dire cette formule bien frappée, Virgo concepit, Virgo peperit, Virgo permandit. Alors je ne sais pas ce que vous m'en pas trop bien ce que vous avez dit. Oui, bon, on va laisser tomber ça.
C'est il conçut la Vierge.
La Vierge enfantin.
La Vierge
enfantin
et la.
Elle est restée vierge, c'est pas ça?
Oui, comme
ça.
Toujours.
Oui, d'accord. Formule de louange, etc. Bon. Alors, ensuite, vous avez le cycle de la dormition, c'est-à-dire cette idée selon laquelle Marie, à cause de sa sainteté, puisqu'elle aurait donc été conçue sans péché, aurait échappé miraculeusement à la mort, serait morte, en fait, mais n'aurait pas connu la corruption. Après sa mort, elle serait ressuscitée et aurait été élevée au ciel dans une sorte d'assomption. Alors il y a des savantes descriptions de la chose, enfin je vous en fais grâce, des choses tout à fait puériles par ailleurs, en ce qui concerne justement la Vierge Marie. Maintenant, au VIe siècle, par exemple, il y a des textes très dubitatifs, des pères de l'Église, par exemple Cyrille ou Ambroise de Milan, récusent fortement le culte marial, qui avait tendance à s'installer aussi, tout aussi fortement à cette époque-là. Par exemple, Cyrille écrira ce texte extrêmement vigoureux, « Que nul n'adore Marie ». Par exemple, Épiphane lui dira, au sujet justement de cette question de l'Assomption de la Vierge, dira « Nul ne connaît les circonstances de sa mort ». Par conséquent, il est interdit de spéculer sur non seulement la mort de Marie, mais également ce qui a pu se passer après sa mort. Par contre, c'est chez ce même Ambroise de Milan, on trouve des propos tout à fait étranges sur justement la virginité perpétuelle de Marie, etc. Mais enfin, c'est un thème un peu différent finalement. Mais ici, ce qui était en jeu, c'était la question de l'adoration de Marie. L'adoration qui, déjà au VIe siècle, nous voyons, avait pris une forme d'une véritable mariolatrie, c'est-à-dire d'une adoration de Marie comme une déesse, pratiquement à l'image de Dieu dans la piété populaire. Et alors, il faut attendre, justement, le Concile d'Éphèse. Alors, le Concile d'Éphèse, c'était quelle année, ça, le Concile? Oui, quelque chose comme ça. Le Concile d'Éphèse, 431, exactement, oui. C'est le tournant à ce sujet. Parce que là, on est en pleine controverse contre les Ariens et contre ceux qui nient la divinité du Christ. Et le but du Concile d'Éphèse, c'est d'affirmer la divinité du Christ. Et pour ce faire, justement, on va publier un dogme. C'est le dogme de Marie Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu. C'est à partir de ce moment-là qu'apparaît cette expression qui reste en honneur aujourd'hui dans la piété mariale catholique, où Marie est toujours définie comme étant la mère de Dieu. Pourquoi? Quel est le raisonnement? Jésus est fils de Dieu. Donc, il est Dieu. Marie est la mère de Christ, puisque Christ est Dieu, étant fils de Dieu, Marie est mère de Dieu. En fait, le catholicisme, quand il explique justement cette formule abracadabra, est absolument, comment dirais-je, inouï, parce que Dieu n'a pas ni père ni mère, par définition. Il dira, oui, mais en fait, il s'agissait non pas de glorifier Marie, mais de glorifier Jésus comme fils de Dieu, de réaffirmer la nature divine de Jésus. Je ne sais pas si c'était là vraiment l'intention des prêtres, des pères du Concile d'Éphèse, mais en tout cas, si c'était là leur intention, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont arrivés à un résultat diamétralement opposé de celui qui s'était proposé, car celle qui a été glorifiée dans l'affaire, c'est pas Jésus, mais c'est bien Marie. Et c'est le point de départ de la théologie mariale officielle catholique.
Oui. Le problème qui fait que dans le groupe des fêtes,
c'est
qu'il y a un
certain conseillère,
les
pères du
Église jusqu'au
6e
siècle,
ça n'a pas été accepté sans discussion. Hein.
Ah non, non. Normalement, le groupe était interdit.
Non, ça n'a pas été accepté comme ça. Sans... Oui. Non, c'est-à-dire qu'il y avait deux choses. Là, le Concile d'Éphèse a proclamé que Marie était la mère de Dieu, mais ne s'est pas prononcé sur l'adoration. Et les pères de l'Église, que j'ai cité au VIe siècle, réagissaient non pas sur le problème de savoir si Marie était ou non la mère de Dieu, ça c'était un fait qu'ils admettaient, mais sur l'opportunité de lui rendre un culte ou non. Alors justement, ça a été le problème dans les siècles qui ont suivi. Et la décision qui a été prise a été celle-ci, c'est que Marie pouvait et devait être vénérée, mais non pas adorée. Alors la nuance était tout à fait intéressante et tout à fait subtile, parce que dans la pratique, ça ne changeait pas grand-chose. la théologie catholique officielle dit l'adoration revient à Dieu seul. Mais par contre, il est tout à fait légitime de vénérer la mère de Dieu. Alors évidemment, un non-catholique peut poser la question, mais où est la nuance? Dans la pratique, où est la nuance? Ça, elle n'existe pas. Et c'est ainsi, par exemple, que le catholicisme récuse l'expression mariolatrie, c'est-à-dire latrie, adoration de Marie. Les catholiques vous diront, nous n'adorons pas Marie, nous la vénérons. Et le terme officiel qui est employé, c'est la mariologie, c'est-à-dire la science de Marie. Vous avez des mariologues dans l'Église catholique, c'est-à-dire des théologiens qui sont spécialisés dans la théologie mariale. Mais officiellement, la mariolatrie n'a pas place dans l'Église catholique. Officieusement, et dans les faits et dans la réalité, c'est autre chose. Mais officiellement, ça n'est pas. Ce n'est qu'une vénération de la Vierge. Alors, à partir du IVe siècle, au moment où Marie a été proclamée Théotokos, on s'est mis à spéculer sur le rôle de Marie dans la rédemption, dans l'œuvre du salut. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on a repris le texte de Luc lorsque l'ange vient saluer Marie, en lui disant « Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. » Dans le texte grec, il n'y a absolument aucune contestation possible. C'est bien cette traduction qui s'impose. Tu as été l'objet d'une grâce, c'est-à-dire d'un acte souverain de Dieu, d'un don de Dieu totalement immérité. C'est la définition de la grâce. Et la Vulgate, je crois déjà, Saint Jérôme au IVe siècle, qui était déjà fortement influencé par la théologie mariale, a traduit justement cette expression « à qui une grâce a été faite » par « gratia plena », pleine de grâce. Alors vous voyez que là, ça change tout. Si l'on traduit ainsi, ça change tout. Car si Marie est pleine de grâce, eh bien c'est en soi qu'elle a cette grâce. Ce n'est pas quelque chose qui lui est donné, c'est quelque chose qu'elle a en elle-même. Et à partir de là, la théologie catholique continue, disant, si Marie est pleine de grâce, et donc elle en a à revendre, et si elle en a à revendre, c'est qu'elle est aussi distributrice des grâces. Et vous avez cette idée, à partir justement de cette expression malheureuse de Saint Jérôme, dans l'Église catholique et dans la théologie mariale catholique, que Marie est la distributrice de toutes les grâces. Ce qui fait, voyez-vous, on est ici dans un système, vraiment dans un système grec, celui du raisonnement logique, dans le syllogisme moyenâgeux. Ceci est comme si, donc, n'est-ce pas, donc, ergo, ego, et ainsi de suite. Vous savez la fameuse devise de Descartes, cogito ergo sum, je pense donc, je suis. Hein, c'est toujours pareil, ergo, ergo. C'est ça ? Marie est pleine de grâce, ergo, elle peut distribuer les grâces. Elle peut distribuer les grâces, donc c'est à elle qu'il faut venir pour recevoir ces grâces. C'est vers elle qu'il faut se tourner en priorité, par conséquent. Ergo, on vient à Jésus par Marie. Ergo, toujours, on fait ainsi parce que Marie est la mère de Jésus et un fils écoute toujours les supplications de sa mère. Par conséquent, si l'on veut quelque chose, c'est à Marie qu'il faut le demander pour qu'elle demande à son fils. Il vaut mieux aller à Marie d'abord plutôt qu'à son fils, parce que Marie va attendrir le cœur de son fils.
Et tout à fait, le jongleur est-elle
Absolument. Absolument. Et aussi de la scène de la croix.
Oui,
enfin, voilà, tout
oui.
Oui, oui, oui. Alors, vous voyez, c'est une logique implacable qui se déroule à partir d'une prémisse qui est fausse. C'est un problème de traduction. Pleine de grâce ou à qui une grâce a été faite. Je crois que là ça change tout. Alors, et aujourd'hui, évidemment, jusqu'à longtemps, jusqu'à peu de temps finalement, jusqu'à Vatican II pratiquement, le texte officiel de la Bible était justement la Vulgate. Aujourd'hui, les catholiques sont un petit peu plus mal à l'aise pour justifier justement ce point de théologie mariale, Marie distributrice de toutes les grâces. Donc la conclusion, en tout cas pratique, c'est qu'il faut demander à elle plutôt qu'à Dieu. Et maintenant ça continue. Donc si Marie est la distributrice des grâces, eh bien, elle a aussi une œuvre dans le salut. Et bon, il y a des perles, par exemple, dans certains propos Mario qu'on trouve ça et là, savoir que personne, par exemple, n'est sauvé sans Marie, sans l'intervention de Marie. Alors d'abord, sans la prière de Marie. C'est Marie, par la prière de Marie que le salut nous devient accessible. Et de plus en plus, voyez-vous, c'est un engrenage qui se déroule. Si la prière de Marie nous vaut le salut, c'est donc que Marie a un rôle dans le salut. Et on arrive en 1950, où le pape Pie XII proclame le dogme de la co-rédemption de Marie. Marie est co-rédemptrice. Elle est rédemptrice, elle est l'auteur du salut avec le Christ. Et ce dogme de la co-rédemption de Marie est aussi étayé dans la théologie catholique par justement l'étude du texte de l'Annonciation, toujours, où l'ange reçoit de Marie cette réponse, vous savez, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc le fiat en latin, n'est-ce pas ? Fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors ce fiat renferme dans la théologie catholique justement toute l'idée justement de la rédemption de Marie, parce que pour l'Église catholique, ce fiat, ce qu'il me soit fait selon ta parole, n'est pas simplement quelque chose de passif, c'est quelque chose d'actif. Marie va collaborer, en quelque sorte, au salut, par ce fiat. Elle donne son accord à Dieu pour collaborer au salut de l'humanité. Ce n'est pas simplement, si vous voulez, la soumission humble de quelqu'un qui accepte la volonté du Seigneur en ce qui la concerne, mais c'est un désir de travailler avec Dieu à l'œuvre du salut. Et Marie va donc, dans la théologie catholique, être associée avec la souffrance rédemptrice de son Fils. Oui, la mère des douleurs, par exemple, les peintres espagnols en particulier ont vous savez, cette mentalité latine est assez morbide, ont exploité ce thème, mais vous voyez souvent des pietas, effectivement, grimaçantes de douleur avec des épées qui lui transpercent la poitrine dans tous les sens, etc. en reprenant le texte de Siméon, une épée te transpercera le cœur. Et alors, vous savez, souvent aussi des peintres au pied de la croix, tenant son fils mort dans les bras, avec une expression absolument tragique, déchirante, oui. Et alors, évidemment, la piété catholique exploite le thème, justement, de la Vierge au pied de la croix, au moment de la mort de Jésus, et en particulier cette parole de Jésus, où Jésus confie Jean à Marie, voici ton fils. Et alors, dans ce cas-là, Jean devient le symbole de l'Église qui est confié à Marie. Marie qui doit conduire l'Église et qui doit, en quelque sorte, être vénérée, honorée comme mère par chacun des membres de l'Église. Et on fait aussi allusion à cette autre parole de Jésus, cette fois-ci à Jean, « Voici ta mère ». Ce qui veut dire que Jésus, en quelque sorte, en mourant sur la croix, donne Marie comme la mère de tout chrétien, celle qui le remplace, en quelque sorte, pour le consoler. Marie, donc, la présence féminine qui console, etc. Il a pris chez lui, hein, le disciple a pris chez lui. Donc tout chrétien doit prendre Marie chez lui, quelque sorte comme Jean avait pris Marie. Alors c'est très joli, c'est très sentimental, c'est très poétique, ça permet de faire des développements admirables d'une piété vraiment à l'eau de rose, mystique, mais qui représente, si vous voulez, toute l'aspiration à une spiritualité féminine dans l'Église catholique. Alors, cette piété féminine, vous la retrouvez, par exemple, dans des allusions qui sont faites à l'Ancien Testament. Vous savez que très souvent, dans l'Ancien Testament, chez les prophètes en particulier, on trouve cette expression « la fille de Sion ». Dans le texte, il n'y a pas de problème, la fille de Sion, c'est Jérusalem. Les habitants de Jérusalem. Bon. Alors là, la piété catholique croit y discerner l'annonce déjà de Marie. Alors la fille de Sion, c'est Marie. Donc fille de Sion, en même temps, les mères de l'Église. Et alors vous avez toutes ces allusions réjouissantes, fille de Sion, etc. Et puis alors, on va plus loin ensuite, on la retrouve aussi dans le Cantique des Cantiques comme l'épouse. Alors elle est l'épouse du cantique, la fiancée plus exactement, la fiancée du Cantique des Cantiques, dans la beauté, enfin le Cantique des Cantiques évoque. Alors là, évidemment, on arrive à un stade, à ce stade-là, où quand même le Cantique des Cantiques étant pas mal érotique, je crois qu'on arrive au résultat inverse de celui qu'on veut atteindre, et on porte finalement atteinte à l'honneur, finalement, la dignité de la Vierge Marie en la rabaissant à un rôle pareil. Bon, alors, voilà en gros, si vous voulez, comment se situe la piété mariale dans l'Église. Alors, dans la mesure où elle est corédemptrice, elle est aussi l'Immaculée. Ça, c'est un dogme aussi récent qui date de Pie XII, lui, et qui date finalement des apparitions de Lourdes. Vous savez comment, en principe, la Vierge s'était révélée à cette bergère pyrénéenne qui était Bernadette. Et alors, quand Bernadette lui a demandé à la dame quel était son nom, elle a répondu « Je suis l'Immaculée Conception », ce qui ne veut pas dire grand-chose. J'aurais dû dire « Je suis celle qui a été conçue immaculée », ça aurait déjà été un peu plus clair. Enfin, « Je suis l'Immaculée Conception bon. ». Alors, c'était une expression assez nouvelle, même dans la piété catholique, et ça a fait problème pendant un temps. Et puis finalement, les théologiens, une armée de théologiens catholiques se sont penchés sur l'expression, puis ont trouvé que c'était tout à fait bien. Et le pape a donc proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, quelques temps plus tard, c'est-à-dire le fait que Marie, étant donné son rôle, sa place unique dans l'histoire du salut, et sa fonction actuelle dans la manifestation du salut, est conçue sans péché, comme en quelque sorte Jésus a été conçu sans péché. Et dans la pensée catholique, il était indispensable qu'il en soit ainsi pour que Jésus lui-même soit conçu sans péché. Mais enfin, je trouve que c'est reculé pour mieux sauter, car dans le fond...
Pourquoi
est-ce que oui, non seulement ça, mais comment alors il faudrait qu'à ce moment-là que sa mère, elle aussi, ait été conçue sans péché. Parce que dans le fond, elle n'a pas transmis le péché originel à son fils, puisqu'elle-même était exempte du péché originel. Mais comment se fait-il que le péché originel, qui était celui de sa mère, ne lui a pas été transmis à elle? Ça ne résout rien, hein. Le problème n'est pas résolu pour autant. N'est-ce pas? Mais le but, c'est tout simplement de glorifier Marie. Le but ici n'est pas du tout d'expliquer comment Jésus a été conçu sans péché. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de l'expliquer, ce ne sont pas des choses qui s'expliquent. Ça, ce sont des objets de foi, c'est des mystères qui nous dépassent. Non, ici, c'est tout simplement, le but n'est autre que de glorifier Marie. Maintenant, Il est certain que pour en arriver à cela, il faut faire violence à des textes très clairs, notamment justement le Magnificat, dans lequel Marie proclame d'une manière très claire « Mon âme exalte le Seigneur et se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Cette expression « mon Sauveur » est tout à fait remarquable. C'est comme si le Saint-Esprit prévoyant d'avance tout ce qui allait se passer, tout le dérapage théologique qui allait avoir lieu sur le fait de Marie, mais dans la bouche de cette dernière, elle-même, n'est-ce pas, la réponse à ce problème-là, mon Sauveur. Bon, si elle a besoin d'un Sauveur, ben, c'est parce qu'elle n'est pas elle-même quelqu'un qui sauve. Si elle a besoin d'un Sauveur, c'est parce qu'elle a besoin d'être sauvée. Et si elle a besoin d'être sauvée, ben, c'est parce qu'elle est perdue, comme n'importe lequel d'entre nous. C'est parce qu'elle est pécheresse, comme n'importe lequel d'entre nous. Voilà. Alors, la tradition catholique dit que on peut accepter des choses qui ne sont pas bibliques dans la mesure où ça ne contredit pas la Bible. Je regrette. Voici justement un cas typique où ça contredit d'une manière expresse et totale les affirmations majeures, justement, et très claires et très nettes de l'Écriture. Par l'Écriture, nous pouvons affirmer d'une manière très claire que l'Immaculée Conception est une absurdité, que jamais Marie n'a été conçue sans péché, que Marie était pécheresse comme chacun d'entre nous. Maintenant, c'est un tout. Enfin, si vraiment Marie a été conçue sans péché, alors il est évident et il est normal qu'elle a été soustraite à ce qui est la conséquence du péché, c'est-à-dire la mort. Par conséquent, si on admet l'Immaculée Conception, il faut admettre l'Assomption. Il faut admettre le fait que Marie ait pu ne pas voir la corruption. C'est un tout. Donc si l'Immaculée Conception tombe, parce que la Bible la contredit expressément, et encore une fois, ce qui est le plus cocasse, c'est que c'est dans la bouche de Marie elle-même, pas, alors automatiquement, le dogme de l'Assomption leur apparaît également comme une absurdité, comme une impossibilité. Maintenant, ce que la Bible aussi contredit d'une manière très claire, c'est ce rôle d'intercession de Marie pour ses enfants. Nous savons que les relations entre Jésus et sa mère n'ont pas toujours été idylliques, ça c'est la Bible. Non seulement Jésus et sa mère, mais Jésus et sa famille, d'une manière générale. Si Marie, dans les premiers temps, s'est élevée à une compréhension très grande du mystère de son fils, à la suite des révélations dont elle avait été l'objet, il apparaît clairement qu'elle a douté, parfois, de la mission de son fils. Et vous savez comment l'Évangile nous montre Marie et les frères de Jésus faisant une démarche auprès de ce dernier pour l'arrêter dans son ministère en disant qu'il avait perdu la raison, qu'il était fou. Et lorsque cette démarche aura lieu, Jésus aura des mots très durs pour les siens, et y compris pour sa mère. Quand on lui dira, tes frères et ta mère sont dehors, ils voudraient te parler, Jésus dira ceci, qui sont ma mère, qui est ma mère, qui sont mes frères? Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté du Père. Et cette parole est tout à fait intéressante, parce qu'elle contredit expressément la doctrine catholique, justement, de l'intercession de la Vierge. Car Jésus nous montre que celui qui fait la volonté humblement, qui fait humblement sa volonté, a autant le droit de recevoir des grâces de sa part qu'en aurait eu des droits sa mère, ses frères. Ça veut dire que la dignité du plus humble des chrétiens qui humblement fait la volonté du Seigneur est aussi grande auprès de Jésus que celle de sa mère ou que celle de ses frères. À ce moment-là, pourquoi recourir à l'intercession de Marie si nous avons finalement le même rang qu'elle? Pourquoi aller à Jésus par Marie? Maintenant, bien sûr, il faut reconnaître que Marie a un rôle exceptionnel dans le plan du salut de Dieu. L'ange le dit d'une manière très claire, une grâce lui a été faite, une grâce particulière, une grâce qu'aucune autre créature n'obtiendra et n'a obtenue. Et dans ce sens, Élisabeth pouvait proclamer par l'Esprit Saint, tu es bénie entre toutes les femmes. Et toutes les générations te diront bienheureuse. Et ceci est un fait que nous ne nions pas, que nous ne contestons pas. Marie est, parmi toutes les femmes, celle qui a été le plus honorée par Dieu, qui a reçu une grâce que personne n'obtiendra jamais. Cette grâce, elle est claire, c'est d'être la mère du Sauveur. Qu'est-ce que pouvait rêver de plus extraordinaire une femme? Juive ou non, finalement. Être la mère du Sauveur, être la mère du Messie, être la mère du Fils de Dieu, c'est une dignité à aucune autre semblable. Et de fait, toutes les générations peuvent la dire bienheureuse, elle le dit même pas, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi, elle le confie une chose extraordinaire. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que si l'évêque Marie est béni entre toutes les femmes et que toutes les générations la disent heureuse, qui, vous savez, ce sont deux expressions qui reviennent dans le Salut Marie, je dis Salut Marie, qui est une des prières favorites des catholiques, il faut dire ceci, et c'est là que nous sommes en contradiction avec les catholiques, c'est que le rôle de Marie dans l'histoire du salut est terrible. Nous ne nions pas, nous ne contestons pas ce rôle important de Marie dans l'histoire du salut. Un rôle qui est moindre que celui que les catholiques lui attribuent. Car ce rôle, il lui a été accordé par une grâce particulière, et non pas par des mérites. Et là, on retrouve encore une fois la différence entre la théologie des mérites, l'Église catholique, et la théologie de la grâce, chez les protestants. Le fiat de Marie pour les catholiques, c'est l'expression des mérites de Marie. Marie, par elle-même, par le fait qu'elle soit la mère du Sauveur, s'approuve, les catholiques, que c'était une personne particulièrement sainte, etc., qui était digne de recevoir la grâce qui lui a été faite, puisqu'elle était même pleine de grâce, nous l'avons vu tout à l'heure. Par conséquent, elle travaille elle-même au salut des hommes, par son fiat, par ses douleurs, par etc. Elle continuait en changer cette humanité nouvelle dans la douleur, etc. Tandis que la vision biblique, Marie, c'est un instrument, et rien qu'un instrument, qui reçoit dans la foi, dans une foi extraordinaire, devant laquelle on ne peut que s'incliner et qu'on ne peut qu'admirer, qui, certainement, n'est pas la première venue, ça n'est pas de doute, c'est certainement une personne particulièrement consacrée, particulièrement sainte, ça n'est pas de problème, mais le fait d'être devenu la mère du Sauveur n'est pas la preuve d'un quelconque mérite, ni d'une quelconque action personnelle dans la manifestation du salut de Dieu. C'est si vrai que les textes bibliques sont extrêmement discrets sur la Vierge Marie. Après les évangiles de l'enfance, il n'est pratiquement plus question d'elle. Si, dans des thèmes plutôt négatifs, l'épisode des noces de Cana, qui est diversement interprété par les catholiques et par les protestants, les catholiques y voient justement une preuve de la fonction d'intercession de Marie, qui apprend qu'il y a un problème au sujet du vin et va demander à son fils, fait quelque chose, etc. Vous voyez, disent les catholiques, Jésus se laisse attendrir par la prière de sa mère, c'était pas son heure encore, mais parce que sa mère lui a demandé, eh bien il va faire un miracle qu'il n'aurait pas dû faire autrement. C'est bien la preuve que quand il y a quelque chose d'impossible, il vaut mieux aller s'adresser à Marie pour que Marie aille attendrir le cœur de son fils. Pas du tout, disent les protestants, car Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je n'accepte pas que tu viennes quelque sorte, me donner des ordres. La signification de la parole de Jésus. Il n'a plus à intervenir dans ce domaine-là. Maintenant, ça, c'est mon affaire, c'est celle du Seigneur, celle du Père. C'est au Père que je suis soumis et plus à toi. J'ai été soumis jusqu'à toi, jusqu'à maintenant à toi, parce que tu étais ma mère. En tant que fils, j'ai été soumis. Mais maintenant, quelque chose de nouveau est arrivé dans ma vie. Maintenant, je fais la volonté du Père. Ce n'est pas de toi que je vais prendre les directives du Père. C'est lui qui va me dire si je dois intervenir. Parlez-vous, c'est une manière tout à fait différente de parler de choses. Ensuite, on la retrouve dans cet épisode des frères et de la mère de Jésus, que j'évoquais tout à l'heure. Et puis on la retrouve dans un autre texte tout à fait intéressant aussi. C'est au moment où, c'est indirectement, au moment où, après un discours particulièrement puissant, certainement Jésus, une femme transportée de l'enthousiasme, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus répond, heureux plutôt ceux qui font la volonté de mon Père et qui gardent sa parole. Nous retrouvons la même pensée que celle que nous avons trouvée dans l'épisode des frères et de la mère de Jésus, qui venaient justement pour l'arrêter. L'important, ce n'est pas un lien de parenté selon la chair avec Jésus, mais ce qui est important, c'est un lien spirituel qui dépend justement de l'acceptation de sa volonté, de l'acceptation de son plan. Et puis ensuite, nous la retrouvons au pied de la croix, là d'une manière un peu plus positive, où elle apparaît dans un courage, la situation de mère, c'est la sienne, Jésus manifeste sa compassion avec elle, mais envers elle, mais il n'y a pas du tout, pas derrière ce geste de compassion qu'a Jésus envers elle, en la confiant donc à son disciple préféré, son disciple Jean, il n'y a aucune autre allusion à une situation d'église ou à un rôle prépondérant de Marie. Et puis nous la retrouvons la jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, avec les standards, au moment où le Saint-Esprit descend sur l'église qui est rassemblée en prière le jour de la Pentecôte. Il ne nous est pas dit qu'elle avait eu un rôle particulier dans cette assemblée des 120. Elle est simplement mentionnée là parmi d'autres parce que c'était la mère de Jésus, c'est comme ça qu'elle est présentée. Il persévérait dans la prière avec les frères et Marie, mère de Jésus. C'est tout à fait normal qu'elle soit mentionnée. C'est effectivement une dignité importante pour elle que d'être la mère de Jésus. Mais ceci dit, elle n'avait aucun rôle particulier dans l'église de Jérusalem, dans sa direction en particulier. Et puis, nous ne retrouvons plus du tout aucune allusion au culte marial, que ce soit dans les épîtres de Paul, que ce soit dans les actes des apôtres. Nous ne retrouvons absolument aucun rôle qu'elle ait pu jouer. Vraisemblablement, elle a fini ses jours avec Jean, sans doute à Éphèse, il y a encore des traditions qui montrent encore le tombeau de la Vierge là-bas à Éphèse. Je ne sais pas trop comment ça s'harmonise avec le dogme de l'Assomption. À Jérusalem, comme il y a eu la fonction d'après les apôtres. Donc tout ça est très très, très embrouillé. Mais les catholiques croient enfin pouvoir la retrouver dans l'Apocalypse, sous le chapitre 12, sous l'image de la femme couronnée d'étoiles. Vous savez, la femme du chapitre 12 qui est enceinte et qui enfante un fils qui doit être dévoré par le dragon qui se tient à côté de la femme pour dévorer son enfant au moment où il naît. Et cette femme, dans la vision catholique, elle est l'épouse du Cantique des Cantiques, qui apparaît là, vous savez, il y a un texte dans le Cantique des Cantiques, et celle qui apparaît belle comme le soleil, comme la lune, etc., et comme la femme du chapitre 12 d'Apocalypse, c'est couronnée d'étoiles, elle a le soleil et la lune à côté d'elle, etc. Bon, voilà, c'est l'association qui est faite avec l'épouse du Cantique des Cantiques. Bon. Oui, justement. Or, ce texte, évidemment, comme tous les textes de l'Apocalypse, est d'une interprétation assez complexe, mais il y a fort peu de chances qu'il fasse allusion de près ou de loin à la Vierge Marie. Ça, alors là, c'est une chose dont on peut être assez sûr. Ça peut représenter l'Église, ça peut représenter le peuple d'Israël, c'est l'un ou l'autre. Peut-être que je ne sais pas. Mais sûrement pas la Vierge Marie. Mais dans la mesure où, encore une fois, la Vierge Marie est l'image de l'Église dans la tradition catholique, eh bien, on la retrouve évidemment sous l'image de la femme qui est à la fois Vierge, Marie et Église, donc épouse. Vous voyez tout le mélange. On retrouve toujours ces thèmes qui reviennent constamment dans la théologie mariale catholique. Alors, ça donne lieu évidemment à des textes d'une emphase tout à fait extraordinaire. Par exemple, voilà quelques-uns des termes sous lesquels Marie est désignée. Sainte Mère de Dieu, refuge des pécheurs, porte du ciel, étoile du matin, reine des anges, et j'en passe, et des meilleurs.
C'est pas compliqué, mais c'est comme le Jésus
et le Jordan. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, elle est honorée pratiquement à l'égal, si vous voulez, à l'égal de Jésus dans certains textes. Il n'y a pas de problème. Elle occupe cette place-là. Donc, si vous voulez, nous arrêterons là pour ce soir. Cette place de Marie apparaît immédiatement disproportionnée avec la place qu'elle a dans l'Écriture. Je crois que c'est la première conclusion à laquelle on peut arriver. Et nous verrons la prochaine fois justement pourquoi il en est ainsi. Il en est ainsi parce que Marie incarne l'idée que l'Église catholique se fait d'elle-même. Voilà en gros la conclusion à laquelle ça se fait. Nous montrerons la prochaine fois. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser?